Vous écoutez France Culture.
Je veux que tout change.
Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Certains lieux conservent leurs secrets pendant des années. Certains lieux font parler sans que l'on puisse départager la vérité des légendes. Pour savoir, il faudrait peut-être commencer par y retourner et tenter d'écouter, dans le silence, d'entendre les voix qui ont habité cet endroit. Sur un plateau calcaire désolé, entre le Larzac et les Cévennes, il y a une route battue par les vents. Tout au bout de la route, il y a une ferme. Un lieu délaissé que certains appellent encore le bagne. Au tout début du XXe siècle, de 1856 à 1904, plusieurs centaines d'enfants placés par la justice ont vécu à la colonie pénitentiaire agricole du Luc, prisonniers des murs comme du néant alentour. La devise de l'établissement reste encore aujourd'hui gravée sur le fronton, en latin, « Le travail lave la faute ». Mais alors de quelle faute s'agissait-il? De quel travail? Un bagne pour enfants a-t-il vraiment existé aux frontières du Gard, de l'Hérault et de l'Aveyron? Certains le clament haut et fort, d'autres refusent cette interprétation. Les derniers colons et gardiens ont disparu depuis bien longtemps et les possibilités de réponse à ces questions s'effacent peu à peu. Entre les légendes et l'histoire, les voix et les sons ravivent la mémoire de ce lieu condamné à l'oubli. Annelise Vieille-Dent et Annie Bosselet sont partis visiter la ferme. Ils ont été saisis par le silence. Le silence du paysage désertique, des pierres, de la torpeur estivale, mais aussi le silence coupable qui enveloppe cette triste histoire de bagne pour enfants, disent-ils. Après le silence, ils ont commencé à imaginer des voix et des bruits, les sons tels qu'ils étaient entendus à la colonie du Luc à la fin du XIXe siècle. Vous entrez dans le secret et dans l'histoire. Les oubliés du Causs par Annelise Vieille-Dent et Annie Bosselet, réalisation Gilles Davidas.
Tout au sommet des Cévennes. Il n'y a pour s'y rendre qu'un unique moyen, aborder les Cévennes par le Vigan où l'on quitte le chemin de fer. Là, les voyageurs prennent la diligence qui, durant des heures, gravit la montagne par une route à peine praticable, au tournant dangereux sur le bord des gouffres. Si les voyageurs ont la chance de faire la montée en plein jour, ils sont à même de jouir d'un des plus grandioses spectacles que la nature sauvage offre aux yeux des hommes. Les quatre chevaux tirent ferme sur le collier, vont lentement, très lentement, pendant des kilomètres, longeant les précipices du fond desquels monte le bruit de tonnerre, des torrents et des pierres roulant au fond de l'abîme. La voiture traverse des bois hantés par les loups, les renards, les sangliers, les lièvres, les lapins, les faisans, les oiseaux de toutes espèces. On atteint ainsi le dernier village, Alzon. Ensuite, par les sentiers de chèvres, le voyageur s'enfonce à travers la montagne et sur 7 à 8 kilomètres, il ne peut voir autour de lui que roches, champs de pierre, quelques chênes à glands et des bouquets de buis. Tout à coup, on découvre une grande vallée en forme de cirque au fond de laquelle, majestueuse comme une forteresse, est une agglomération de vastes bâtiments. La maison du Luc. Le bagne d'enfants.
Les oubliés du Causs,
Annelise Vieille-Dent, Anil Bosselet, Gilles Davidas.
Bagne, colonie pénitentiaire agricole, école professionnelle. Trois façons de raconter le Luc, ce lieu aux multiples facettes. Il y a 150 ans, sur le cause de Campestre, le Luc haut, le Luc bas, l'abîme Saint-Féréol grouillait d'activité. Dans la ferme, les ateliers, les granges, les champs et la fromagerie, plus de 200 enfants rachetaient leur faute par le travail. Et depuis, plus rien. Tout s'efface, disparaît, s'infiltre dans le calcaire des causses. Mais aujourd'hui, les corps, les voix, les histoires ressurgissent et mettent fin au silence.
Alors, la première fois que j'ai entendu parler du bagne, en fait, j'ai visité le musée Cévenol.
André Pisiot.
Et dans une vitrine, il y avait un petit bouquin, dont je ne sais pas quel était le titre ou l'auteur. Il était ouvert à une page, et en passant, mon œil a été tiré parce qu'il y avait marqué le Luc dessus. Donc, il y avait un petit paragraphe de deux lignes, disant qu'il y avait une colonie pénitentiaire qui avait fonctionné ici, sur la commune de Campestre, où j'habitais. Donc, j'ai demandé un peu aux gens du coin, aux paysans, aux anciens. Tout le monde me disait non, il n'y a rien, quoi, on ne sait pas, enfin. Il y avait vraiment comme une chape de plomb dessus, quoi. Donc, quand on venait ici, on voyait bien que c'était des bâtiments qui ressortaient de l'ordinaire, qui ne ressemblaient pas aux fermes qu'on trouve sur le Causse, quoi. Mais bon, personne n'en parlait, c'était vraiment quelque chose de caché, de d'enfoui, quoi. Il faut dire que c'est un monde paysan où on ne se confie pas, on parle de la pluie et du beau temps et du blé qui pousse ou pas, mais pas plus, quoi.
Moi, je suis la femme d'Alain Duluc.
Françoise Marquise Duluc.
Mon mari est né en 1924, si je ne m'abuse, et il est mort en 2005. Mon mari est un petit-fils de celui qui a fondé la colonie pénitentiaire, pour vous situer ça dans le temps.
Moi, je ne suis pas Véronais, mais...
Geoffroy Lacote.
Je fais mes études à Aix-en-Provence et j'ai la chance de connaître une Aveyronaise. Et mon beau-père m'emmène dans un coin où on trouve des girolles. Et le coin où on trouve des girolles, ça s'appelle la colonie. Sur la carte d'état-major, ça s'appelle encore la colonie. Et on m'explique que c'est un bagne pour enfants. Donc on en parle, je visite un peu, puis ça en reste là. Et puis deux ans après, je me retrouve dans une école à l'éducation surveillée, qui est devenue la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc, comme je vais écrire un mémoire, j'ai dit, bah écoutez, moi, je ferai un mémoire historique. Je suis pas du tout historien. Mais ça m'amusait de faire ça. Donc, j'ai passé un mois aux archives de Nîmes. Je suis allé voir, bien sûr, les Marquesses du Luc. J'ai visité. J'ai été voir toutes les personnes qui avaient quelque chose à dire. Trouver des gens qui auraient connu la colonie pénitentiaire, c'est presque mission impossible.
Article 66 du Code pénal. Lorsque l'accusé aura moins de 16 ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté, mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant un nombre d'années que le jugement déterminera et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa 20e année.
C'est un article qui permettait de dire que si cet enfant était élevé par une famille, on va dire, déficiente, c'était les termes de l'époque, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas assurer une éducation digne de ce nom, le juge pouvait le confier à un établissement d'éducation. Donc, on se dit peut-être que si on les renvoyait à la campagne, là, on va les rééduquer.
Lacasse Justin Mathieu, né à Alzon, numéro 96. 13 ans. Jugement du 23 janvier 1858 pour délit et vol dû à la gourmandise. Caractère léger, vif, pétulant, mais bon. En le traitant avec douceur, on en fait ce que l'on veut. Ses mœurs et sa conduite avaient été bonnes jusqu'à cette dernière année. Article 67 du Code pénal. Durée de la correction, 5 ans à la colonie pénitentiaire agricole du Luc.
Avec cette idée que les familles... Ces familles d'ouvriers, ces familles des faubourgs qui vivaient hors mariage, qui on savait pas trop comment, avec quelle moralité, bah, ces familles n'étaient pas forcément les mieux placées pour élever leurs propres enfants. Donc, c'était quand même une idée de l'époque, ça, quand même.
Ouais, coucou. C'est beau, hein.
Bruno et Rail.
Depuis très 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 longtemps, je suis sensible et militant sur différentes thématiques, et notamment sur celle de la prison. J'ai été éducateur spécialisé en centre d'hébergement, mais c'est aussi une histoire personnelle avec la prison. Voilà, en son temps, j'ai été insoumis, j'ai refusé de faire mon service militaire, mais je me suis retrouvé un peu. Donc depuis ce temps-là, c'est aussi un souci parmi d'autres qui m'intéresse, savoir comment la société gère la délinquance et quelles sont les conditions dans lesquelles on fait vivre les gens en prison. Donc c'est par hasard que j'ai appris l'existence de la colonie pénitentiaire agricole du Luc. Donc quand je suis venu m'installer ici, très vite j'ai commencé à m'intéresser pour avoir des informations un peu plus complètes. Les gens par ici sont relativement discrets. Et donc j'ai fouillé des archives du Conseil général. Alors voilà, ça c'était, je pense que c'était le chemin qui devait être pris pour descendre au Luc. Donc là on voit les bâtiments du Luc. Le toit rouge, c'est la ferme qui est de l'autre côté de la route. À droite du toit rouge, à une largeur de main, on voit des cônes de pin ou de je sais pas quoi. C'est là qu'il y a le cimetière. Et là, le Luc bas, c'est un peu là où on voit un petit toit rouge. Donc les gamins ont des pavés.
Les gens qui se souviennent vraiment de la colonie, ils vous racontent, mon grand-père m'a dit que mon père était gendarme, une vieille dame. Une fois sur deux, c'est presque idéalisé.
Ils étaient tranquilles.
Léa Pradel.
Et ils n'étaient pas malheureux. Il y avait des colons qui avaient bien réussi dans la vie. Il y en avait deux qui étaient dans l'armée et qui venaient voir ici une grand-mère. Hein.
C'est l'imaginaire collectif qui parle.
Une fois, un colon, et c'était un petit peu échappé, il était venu là derrière, on l'avait trouvé. Mais tout ça, vous comprenez, c'est vague.
Et donc, quand vous rencontrez des gens sur le Caux, aussi vieux soient-ils, ils n'ont jamais connu le bagne.
Alors là, on est sur un chemin qui vous emmène vers les bergeries, les basses. Là, c'était d'anciennes, c'était des étables.
Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Hein. Ici, c'était une cour pour les petits. C'est parce qu'ils étaient parés, les plus petits, les grands. Et là, entre ces grands murs, là, qui sont 4 mètres de haut, quand même, c'était la cour des grands.
Et là-bas, on va s'approcher. C'était le potager qui était immense. Ça représentait un travail très important et c'était aussi une façon d'être autonome. Vous imaginez bien qu'ils ne devaient pas faire venir les produits frais tous les jours.
Et là, c'était la maison de maître, la maison des propriétaires. Et des
on est sur un Caux. Donc on est à 70 km de Montpellier, au nord de Montpellier. On est sur un Caux. L'été, il fait... ici, on ne se tient pas l'été, là, dans cette cour d'honneur. Il va faire 38 cet après-midi. Mais l'hiver, il fait moins 12, moins 15. C'est un climat relativement rude. Et une région quand même assez pauvre. Hein. Sur le Caux, la difficulté, c'est de trouver de l'eau. Parce qu'il n'y a pas de puits. Il n'y a pas de puits, c'est calcaire. Donc il n'y a pas, une nappe phréatique où la nappe, on va la chercher à 50 mètres ou à 100 mètres. Il n'y a pas de puits. Donc on essaye de garder l'eau de ruissellement, l'eau de pluie. Donc, d'où ces citernes. Et pour les jeunes, alors vous allez me dire, s'il n'y a pas d'eau, comment faisaient-ils pour se laver? Voilà. Alors, officiellement, ils ont droit à 2 bains chauds par an. Et dans l'inventaire de 1882, il y a 6 baignoires sur la colonie. 250 gamins, une cinquantaine de personnel adulte, 6 baignoires. Alors le plan, c'est le plan classique des bâtiments de la République, que ce soit une caserne, un hôpital ou une école. C'est un plan en U, distribué autour d'une cour centrale qu'on appelle la cour d'honneur. Donc quand on est dans la cour centrale, on est face à l'entrée principale, au-dessus de laquelle il y a la fameuse plaque, a été créée en 1856 par monsieur le conseiller général Marquès du Luc. Des bâtiments hauts de 2 étages, sur l'aile gauche des ateliers. Ces voûtes-là qui sont fermées, là, c'était des ateliers, la bourrellerie, la sellerie, il y avait un atelier de vannier. Cette aile-là qui revient vers nous, les cuisines et les réfectoires, au-dessus des dortoirs, bien sûr. Là, au premier étage, l'infirmerie, et là, on est juste devant les fameuses cellules. Ça fait un peu partie du passé. Je ne sais pas si vous avez vu les bâtiments, quand même, ils sont... On a du mal à imaginer cette école, enfin cette colonie avec à certains moments 300 gamins et une cinquantaine de personnels autour. Donc c'était quand même, avant de réunir 300 personnes sur le cours de Campestre, il va falloir que vous ratissiez large quand même. Et peut-être pendant l'été, là, quand il y a tous les touristes. Parce que c'est quand même, maintenant c'est désert, quoi.
Ça, c'était la chapelle des colons, hein, où ils avaient la messe à 6 heures du matin, je ne sais pas trop quoi. Ou si, c'était très rigoureux, hein, très, très rigoureux. Je pense que c'était très militaire et très catho, hein. Voilà, et ça, c'est la crypte où sont enterrés tous les ducs. Les gens que je reçois ici, c'est rare qu'ils s'intéressent à l'histoire, hein. Ma famille et la famille de mon mari étaient plus de mon parent. Donc petite, j'étais toujours montée, mais c'était la maison des fantômes. Et tous les jeunes s'amusaient à merveille là-dedans. Venir ici, c'était vraiment l'aventure. Vraiment, c'était l'aventure. On allait dans un... Il fallait venir l'été, parce que sinon en hiver, alors là, c'était pas possible, c'était la Sibérie. Bref, c'est vous dire, déjà que l'Écosse, c'est un pays qu'il faut connaître, c'est un pays perdu, hein. Alors, moi j'ai débarqué là-dedans, mais moi je trouvais ça charmant, avec comme impression de quelque chose qui sort de l'ordinaire, où on m'expliquait qu'il y avait une très vieille histoire, qu'il y avait une très vieille chapelle, que c'était très vieux, et puis voilà. J'en garde pas plus de souvenirs, c'est moi qui recherchais tout ça, hein. D'où ça sortait et quel était le passé.
Auguste Dominique, né à Gênes, numéro 107. 12 ans abandonné. Jugement pour vol commis le 19 septembre 1858 dû à la paresse et pour vagabondage. Soustraction frauduleuse d'une somme de 25 francs, d'un parapluie et un paquet de cigares en octobre 1858. Caractère doux, mœurs et conduites mauvaises. Article 66 du Code pénal. Durée de la correction, 6 ans à la colonie pénitentiaire agricole du Luc.
C'était, vous savez, au lendemain des révolutions de 1848, c'est là que les plus belles fortunes de France se sont faites. Celles qui existent encore aujourd'hui datent de ce maintenant. C'est le libéralisme dans toute sa splendeur. On a des belles idées philosophiques, on va occuper et sauver nos pauvres, nos enfants, les délinquants, on va sauver tout le monde, quoi. C'était la solution. Comme l'État n'a pas l'air de vouloir faire trop de dépenses, on se dit qu'en fait, ces bonnes colonies agricoles, ce sont des propriétaires privés qui vont les créer et les gérer, sous le contrôle de l'administration pénitentiaire. Alors, Monsieur Marquès du Luc, c'est le type même du philanthrope. C'est un conseiller général, il a été président du conseil général, c'est un magistrat.
Et très imprégné des idées de la fin du 19e siècle, très socialisante, très compatissante pour les misères humaines. Et surtout, alors là, je ne sais pas pourquoi il a été particulièrement sensibilisé par les enfants. Alors, il s'est mis dans la tête que son domaine allait servir à ses enfants pour les rééduquer à un métier et ensuite de le réinsérer dans le travail.
Mais déjà, l'idée, elle est un peu biaisée, parce que envoyer à la campagne des garçons des faubourgs, alors qu'on va leur apprendre, comme au Luc, à s'occuper de moutons et à tailler du buis ou à faire du fromage, donc là, il y a déjà une petite méprise.
Moi, Lucien Bossy,
J'étais le plus jeune, sinon le petit de la colonie. Comme rang de taille, j'avais le numéro 2. Je fus donc affecté à la brigade numéro 1. Nous étions chargés de menus travaux tels que le dépierrement des champs. On nous munissait d'un sac à moitié rempli de paille dont l'extrémité vide nous servait de coiffure. L'autre extrémité servait de coussin pour protéger notre cou et était destinée à recevoir une corbeille en osier. Déployés en tirailleurs, pliés en deux, nous ramassions les pierres de la grosseur d'un œuf et plus jusqu'à ce que les corbeilles soient pleines. Nous les chargions ensuite sur notre dos et, en file indienne, allions les vider sur un tas en bordure de champ. Ce travail était assez pénible pour le jeune corps de 8 à 11 ans. Derrière nous veillaient le surveillant et le caporal. Pour voir si nous faisions bien notre travail, et n'oublions pas le caillou de la grosseur minimum. Réprimande au premier oubli, et ensuite, punition pour le coupable.
Comment c'était perçu, mais c'était au bout du monde. C'était au bout du monde, et Marquès du Luc, c'était un des plus gros propriétaires du coin. Il donnait du boulot aux gardiens, aux femmes des gardiens, et à tous les agriculteurs du coin qui vivotaient sur ce cours et qui allaient pouvoir gagner un petit salaire d'appoint. Enfin, j'ai pas lu d'article, de document en 1855 disant que c'est scandaleux. Tout le monde a trouvé ça extraordinaire. Alors, les belles idées de départ, il y aura un enseignement, il y aura une éducation religieuse. L'enseignement, on le faisait surtout l'hiver. Alors, c'est-à-dire qu'on, quand ils ne pouvaient pas sortir, que le cours était enneigé, qu'il n'y avait pas trop de travaux agricoles, on se rattrapait sur l'enseignement scolaire. Donc, on les enfermait tous à tour de rôle dans des classes. Il y avait deux ou trois classes avec lecture, travaux d'arithmétique, etc. Mais c'était assez sommaire. Et dès que les travaux reprenaient, les travaux agricoles reprenaient, on ne parlait plus trop d'école, quoi. Ou alors pour les tout-petits. Je pense que c'était assez... quand on regarde les rapports d'inspection, c'était assez sommaire et pas très à la hauteur, même pour l'époque.
Le ban, c'est l'emprisonnement forcé. Et il y avait effectivement des sanctions, hein, ça, il ne faut pas se leurrer. Les enfants étaient tout le temps en sabots pour qu'ils évitent de s'échapper. Marcher avec des sabots à longueur de journée, vous êtes un peu des ampoules, moi, il me semble. Enfin, j'en sais rien. Bon, ben, ça aussi, ce n'est pas un très bon traitement. Mais c'était un peu obligé. Enfin, je ne défends pas la cause. Hein. Qu'il y ait eu peut-être des exagérations, parce qu'il y avait comment ça s'appelle, pas des précepteurs, il y avait des gardiens. Est-ce que ces gardiens n'ont pas exagéré? Il y en a certains qui ont dû exagérer, hein, parce que les enfants, c'est pas commode quand ils ont 15 ans, 16 ans et qu'ils commencent à avoir mauvais esprit. Alors, est-ce qu'il y a eu des brimades? Peut-être bien, ça je n'en sais rien. Hein. Mais tout ce que je sais, c'est que le fondement était un but humanitaire.
Pendant l'hiver, notre brigade était chargée du hachage des menues branches de buis destinées à la litière du bétail. Accroupis sur nos talons, ayant derrière nous un immense tas de branchages de buis de toute taille, devant nous, couché à terre, un arbre moyen ébranché. Un coup pris dans une main, de l'autre nous tirions une grosse branche. Tirant d'une main, coupant de l'autre les fins rameaux, nous ne tardions pas à faire de gros tacs qui étaient enlevés à l'aide de brouettes et poussés dans les bergeries et les étables toutes proches. Nos pauvres petites mains étaient couvertes d'engelures. Les tas de buis étaient en plein air, La neige et le givre nous faisaient cruellement souffrir. Toute la journée, durant l'hiver, c'était le même travail avec, de temps en temps, un bout de doigt coupé. Mais il fallait bien que le travail se fasse. Il fallait bien aussi gagner le coût de notre entretien. On ne pouvait pas nous engraisser à ne rien faire.
Effectivement, il y avait un revenu de la colonie, puisqu'ils faisaient des paniers, ils faisaient des fromages. Est-ce que ces revenus suffisaient juste à entretenir, parce que ça coûte, tous les instructeurs là-dedans, il y avait je ne sais pas combien d'instructeurs, il y avait un curé, il y avait des lavandières, il y avait un village de gens attachés au service de la colonie. Hein. Non, il fallait payer tout ça.
C'est une très grosse exploitation pour l'époque, c'est une exploitation modèle. Je pense qu'il a essayé d'en faire une exploitation modèle. Donc, il fallait énormément de bergers, de petites mains pour superviser cette exploitation. Donc c'est à la fois une très belle exploitation, mais ça, est-ce que ça aurait pu être une très belle exploitation sans tous ces jeunes pour faire ce travail ?
Bien entendu que les petits colons travaillaient, puisque c'était le but ensuite de leur donner un métier. Mais ils n'ont jamais été exploités comme le disent certains livres.
Mais encore une fois, c'est l'administration qui pousse un peu ses propriétaires à ce genre d'activité, puisque en fait on leur confie des gamins et on leur dit pratiquement débrouillez-vous. Donc ils sont un peu condamnés à les exploiter. Alors, certes, les conditions étaient dures. Bon, certes, pas de chauffage, les chambres n'étaient pas chauffées ou les conditions de vie étaient assez rudes. Mais quand même, il y avait un médecin qui venait deux fois par semaine. Il y avait un régime alimentaire. Alors, je ne dis pas qu'il était respecté, mais tout était normé. Enfin, je veux dire qu'il y avait des règlements pour tout. Il devait le respecter. Il devait manger de la viande deux fois par semaine. Il devait... tout était réglé et organisé.
Ce qu'il y avait d'intolérable là-bas, c'est qu'on y fout 250 enfants sous une idée philanthropique qui était plutôt un pourrissoir. Je ne suis pas sûr qu'un petit gamin d'ici avait une vie plus élaborée et de meilleure qualité. Il était avec ses parents. Il faudrait peut-être poser des questions, mais c'est difficile aussi de trouver des gens. Quelle était la vie d'un gamin en 1860 ? D'une famille de paysans ?
C'était différent, on ne peut pas comparer. Mon père était ici, d'ici, ma mère était d'Estelle, d'après Alzon. Oui. Agriculteur. On avait des brebis et voilà. Et à Campestre, on allait à la messe à Campestre, à l'école à Campestre, et on y allait à pied. Et puis il faut bien 3 quarts d'heure, vous voyez, à peu près 3,5 km d'ici Campestre. On mettait 3 quarts d'heure. Mais on était 4 ou 5 d'ici qu'on allait à l'école ensemble, alors le temps passait. Et puis il n'y avait pas d'autre moyen. Et puis on n'était pas malheureux. On ne connaissait pas autre chose. On nous faisait écouter, les parents. Et si on nous donnait une tape, on la gardait. Et alors, eux aussi, ils étaient bien encadrés, mais on ne les battait pas, non.
Alors, il y avait énormément de fromageries à l'époque, hein, dans tous les coins, tout le monde, comme on n'arrivait pas à conserver le lait, on ne pouvait pas le transporter, beaucoup de fromageries.
Venez voir. Ah, vous savez ce que c'est un avène ?
Anne-Marie Ribemal.
Un avène, qu'est-ce que c'est ? Un avène, c'est un trou naturel, parce que la pierre, elle est dans, on se retrouve dans du calcaire, c'est un gouffre qui est naturel. C'est l'eau qui s'est engouffrée sous la terre et qui fait un trou.
Pour la petite histoire, il y régnait l'idée que c'était... une des entrées de l'enfer, enfin c'était un peu maléfique, personne ne connaissait trop. C'est aussi un endroit où on se débarrassait des carcasses des animaux morts, donc c'était plus un dépotoir qu'autre chose.
Et donc à l'origine ici, il y avait ce trou, avec cette ferme à côté. Et puis cette ferme, il y a une histoire un peu spéciale à cette ferme. C'est qu'ils ont profité de ce trou pour un jour faire, là on voit des fondations, pour faire une fromagerie. Voilà. Mais ils ont décidé parce qu'il y avait quelque chose aussi un peu bizarre. C'est qu'ils avaient beaucoup de main-d'œuvre. Ils avaient beaucoup de gens qui travaillaient pour eux gratuitement. Et puis ces personnes, c'était des enfants.
Ça donnait du boulot à beaucoup de monde, hein, parce qu'il y avait une fromagère, des cabanières, donc du personnel affecté uniquement à la fromagerie. Et puis, au meilleur de la production, une trentaine d'enfants qui intervenaient pour les manipulations, pour amener le lait, pour tous les petits travaux qu'il pouvait y avoir.
Au début, il y a un puits. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le puits. Ouais, donc il y a un puits. Et de là, en fait, ils ont fait descendre des enfants qui sont les plus petits, qui avaient 6 ans, 7 ans, par le puits. Et puis, ils montaient les enfants toute la journée, là. Vas-y, te monter ces fromages. Ça n'allait pas assez vite. Hein. Alors, ils ont trouvé l'idée de creuser un tunnel, de faire creuser un tunnel pour que ça soit plus rentable. Voilà, tous les matins, en fait, ils descendaient, ils partaient de la ferme, là-bas. Ils étaient à la queue leu-leu. Donc, il y en avait au tonnage, du tien aussi. Et alors, ils avaient tous un uniforme. Ils avaient des sabots, ils marchaient avec des sabots. Donc ils partaient de là-bas. Bon, ils avaient sûrement déjeuné, hein, je pense. Je ne sais pas si c'était des cornflakes qu'ils mangeaient. Mais ils partaient donc de la ferme. Et à la queue leu-leu, ils descendaient jusqu'en bas à la cave. Donc un uniforme, c'était un genre de bure. Et puis avec des sabots. Donc alors s'imaginer qu'on a des sabots, hein, un uniforme, et on descend au travail. En fait, faut faire attention, c'est un peu long. Vous voyez, par terre, ça glisse.
Et ce fameux tunnel a été creusé dans la roche. Alors, les mauvaises langues disent que c'est avec la pioche des enfants que ce tunnel a été creusé. C'est absolument faux. Ce sont des ingénieurs d'Alès qui sont venus et avec des barres de mine ont fait sauter la roche de façon à creuser le tunnel. Bon, vous voyez comme quoi on déforme ce qui est bonne intention quelquefois en exploitation. Voilà, exactement. Et que ça, le grand-père, il se relèverait de sa tombe s'il entendait dire que c'est de l'exploitation, surtout qu'il s'y est ruiné. Alors là, raison de plus, hein.
Il y a de grandes chances pour que ce soit un ingénieur du chemin de fer qui soit venu leur donner quelques explications. Parce que c'est un vrai travail de terrassier. On ne s'improvise pas comme ça. On se dit, tiens, on doit être à peu près à la même hauteur et on va creuser un tunnel. Par contre, il y a de grandes chances pour que les gamins de la colonie, les colons, les détenus aient prêté la main. Ça, c'est sûr, c'est sûr.
Des chauves-souris. Je pense pas. Je pense pas que c'est trop humide. Je pense qu'il faut des chauves-souris. Voilà, c'est bien noir. Le sol il est humide, mais des gros cailloux. Tu vois. Et c'est bon, les enfants ils trottent bien. Hein.
Avec les sabots, c'est pas facile.
Ouais. Oui, c'est long, hein?
Sur la tête.
Ouais, c'est
une corolle de sol.
Voilà, là on arrive dans la fromagerie. Regardez, qu'est-ce que vous voyez là?
Des escaliers.
Voilà. Alors, attention, ça glisse parce qu'il y a de l'eau.
On va descendre?
Ouais.
Quoi, t'as envie?
Voilà, on va descendre.
Et là, ça fait cool, on peut te.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance pour travailler, là,
hein? C'est quand même trop bien. Moi, j'y vois rien.
Qu'est-ce que vous en pensez si vous travaillez 7 heures par jour ici, même 5 heures? Quelle ambiance ça fait?
Mais moi, j'y vois rien, alors.
J'ai retrouvé l'écrit d'un truc d'un spéléologue qui disait qu'un jour, c'est un monsieur qui était du Vigan qui l'avait amené ici et qui l'a fait visiter. En fait, le monsieur n'avait pas pu descendre la fromagerie. Et en fait, il s'est arrêté au début là et il pleurait. Et en fait, il pleurait parce que ce monsieur, il était venu au bagne tout petit. Et que ça l'avait tellement traumatisé qu'il n'était pas capable, à 78 ans, pas loin de 80 ans, à rentrer dans le tunnel, tellement qu'il a été traumatisé par
son enfance.
Quand on est enfant, on est enfant, en fait, on fait confiance aux adultes. Hein. Si on te dit qu'il faut que tu fasses le fromage du matin au soir, pour ton bien, tu le fais. Il y a sûrement qu'il y en a qui sont enfuis, mais bon, je ne sais pas, ça n'a pas été...
Ça a oui, pas été comment dit. Alors s'ils se sont enfuis?
Eh ouais, à pied. Donc, hein, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de voiture. Donc, comment tu aurais fait?
Je serais montée, je serais à pied.
Tu serais à pied, tu serais rentrée chez toi à pied.
Je vis dans la nature.
Tu serais rentrée. C'est vrai que tu es du pays, toi. Hein.
Il y a une bougie. Et... Ah ouais?
Tu es du pays, tu n'es pas de Paris. Parce qu'il y avait beaucoup de grosses de la région parisienne ici. Hein.
Donc, on peut aller voir là-bas.
Oui, si tu veux.
Et vous n'avez pas froid dans les ici là.
Eh ben, je pense qu'il devait avoir froid. Mais
vous n'avez pas autant de couches que nous.
Ouais, mais quand même, dans ce qui a été retrouvé, ce qui a été écrit, parce qu'ils ont laissé des écrits, il n'y a pas eu trop de monde.
Avec le temps, on s'aperçoit que l'administration ne veut n'augmente pas le prix de journée. Le prix de journée est tellement infime qu'il faut que vraiment qu'ils travaillent. Donc il y a des gamins qui arrivent, ils ont l'âge de 6 ans. Et ils repartent parfois à 15 ans, 18 ans. Et ils devraient être libérés depuis très longtemps. Donc parfois c'est un reproche qu'on fait à ce directeur en lui disant « Mais comment se fait-il qu'ils sont encore là ?» Il y a peut-être une explication. C'est que quand ils ont 15 ans, qu'ils sont un peu dans la force de l'âge et qu'ils peuvent un peu travailler au champ... C'est un peu dommage peut-être pour le directeur administrateur de le voir partir, alors que le petit de 6 ans qui est toujours malade, toujours alité, toujours mal à la gorge et qui ne peut pas trop travailler, il n'est pas trop rentable. C'est peut-être une explication.
Ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il faisait 40 tonnes de fromage. C'est énorme, 800 brebis. Il n'y avait pas de machine, il y avait pas... C'est incroyable quoi. Quand c'est qu'il s'amusait, un enfant, ça joue. Est-ce que, je veux dire, quand c'est qu'il prenait du temps à... C'est un enfant, bon, ça a des rêves, ça doit vivre autrement que dans le travail. Pour moi, c'était de l'esclavage, quoi. C'était de l'esclavage.
Belle-Main Antoine, née à Lyon, numéro 121. 10 ans, mère décédée, abandonnée par son père. Jugement du 24 décembre 1861 pour vol et vagabondage sans discernement. Caractère léger, insoumis, enclin à la paresse et au vagabondage, ses mœurs ne paraissent pas mauvaises. Article 66 du Code pénal. Durée de la correction, 4 ans à la colonie pénitentiaire agricole du Luc.
Se bat en classe, mange en classe, a fumé sur les rangs, a fait des caricatures sur son cahier, fait le sourd quand son gardien l'appelle. De punition. Alors Joseph Théodoric, 1891. Vous voyez, les punitions, c'est piquet, pitance, donc un repas, on va dire, édulcoré, enfin moins bon, cellule et pain sec. Alors. Arrache les boutons de sa chemise.
S'il y avait donc les cellules, au-dessus c'était l'infirmerie.
A détruit son chapeau.
Et sur les toits, c'était les.
Parle à la chapelle. Alors là, c'est 2 jours de piquet, là, par la chapelle. Lance du pain sur ses camarades de classe.
André Pisio.
les portes sont graffitées aussi. Ça ressemble vraiment à des cellules de bagne avec la petite fenêtre dans la porte, l'épaisseur de la porte et en bas, un loquet pour passer les plats, etc.
Mauvaise volonté au travail.
Donc c'est assez impressionnant quand même, ne serait-ce que la grosseur des serrures aussi.
N'a pas fait le temps réglementaire de son sabot.
Mais même les graffitis ne sont pas trop anciens. Ou en général, les gens mettent leur nom, les dates, l'endroit où ils sont d'origine. Celui-là est un peu plus développé. Où il y avait des abonnés, visiblement. Et on retrouve le nom Erastol qui a dû faire toutes les cellules. C'est des gamins qui venaient des villes, donc ça devait être assez impressionnant de se retrouver ici sur le Cossin.
Tenez, ça, voilà, ça c'est un signalement pour un fugueur. Il est vêtu d'un béret en drap gris, d'une blouse blanche, d'une veste en drap gris, d'un pantalon en drap gris, d'un tricot, d'une chemise en toile blanche, portant le numéro 342.
La belle vie dans ces champs à perte de vue, au milieu de ces bonnes herbes qui vous enivrent de leur arôme. Et là-haut, les mignonnes alouettes dont les champs célèbrent la liberté, la joie de vivre. Pauvres colons, regarde de tous tes yeux, ce ne sont que des bêtes, mais elles sont libres. Leur horizon est sans limite. Devant, derrière, à droite, à gauche, c'est l'immensité, c'est le libre espace. Mais garde-toi bien de trop comparer ton sort au leur. Le bruit de tes fers te ferait plus cruellement sentir la liberté. Qui n'a pas gémi dans les fers ne peut connaître la puissance tyrannique de cet appel. Quelle attraction, quel aimant cruel. C'est toute la plaine, avec ses cachettes multiples. C'est toute la nature qui vous lance le grand, l'immense appel de la liberté.
Il n'y avait pas besoin de beaucoup de murs, hein, parce que, imaginez, appel le matin, appel le midi, appel le soir, ils sont tout le temps sous le regard des gardiens, donc dès qu'il y en a un qui manque, on sait qu'il manque.
Tout à coup, prenant sa course, le colon s'enfuit. Il sait qu'il sera repris dans quelques heures par l'ennemi de la liberté d'autrui, par un homme libre, avide de toucher l'ignoble prime. Certains réussissaient pour quelques jours, beaucoup pour quelques heures seulement.
Et puis après, vous partez en sabot, je veux dire, on vous voit à 10 km à la ronde, on vous voit, il n'y a rien, il y a juste un tas de pierres de temps en temps pour vous cacher, mais il n'y a rien. Vous partez avec un vêtement où c'est marqué « Col Luc ». Si vous ne trouvez pas des vêtements, c'est impossible de passer inaperçu. C'est-à-dire faut faire au moins 40 km. Là, aujourd'hui, c'est désertique, mais à l'époque, il y avait des hameaux partout, il y avait des fermes partout. Donc, la population est beaucoup plus importante. Alors, on envoyait quelqu'un à la gendarmerie, les gendarmes cherchaient le fugueur, le fugitif plutôt, et quand les gendarmes faisaient appel à aux bonnes volontés, mais bonnes volontés rémunérées, hein, je crois qu'il ne manquait pas de main-d'œuvre. Alors dans la légende locale, tout le monde dit nous on leur donnait des vêtements, nous on leur donnait à manger, nous on n'aimait pas ça, nous. Enfin, quand on vous dit ça, c'est en 1980 ou 85, quand j'ai fait la collecte un peu de ce genre de renseignements. J'ai l'impression qu'ils étaient tous, ils voulaient tous aider ces pauvres colons, mais à trois générations de là. C'est comme il n'y a eu que des résistants à la fin de la guerre.
Bandits, voyous, voleurs, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs.
schnappant. Qu'est-ce que ces hurlements?
Bandit, voyou, voleur, schnappant.
Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas tellement d'histoire dans la région là-dessus, alors que c'est
quand même... Anne-Marie Rivemal.
Et c'est étouffé. Et ça, ça, c'est toujours quelque chose qui m'interpelle au niveau historique, quoi. Au niveau de la conscience collective, qu'on oublie toutes ces histoires. C'est la honte, quoi. Moi, je pense que c'est le truc le plus honteux qu'on peut traîner, c'est la maltraitance des enfants.
Dans les années 90, l'État essaye de reprendre la main sur ses prérogatives régaliennes. La colonie se transforme en école professionnelle, c'est-à-dire que les Marquises du Luc passent de l'administration pénitentiaire à l'assistance publique. Mais en même temps, c'est pas anodin, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire que c'est peut-être plus à la pénitentiaire de s'occuper des enfants, et on commence à se dire que les enfants, peut-être, ils sont d'abord victimes, et peut-être qu'il faudrait ils relèvent d'une autre administration.
Les colonies pénitentiaires agricoles ont été la première démarche qui a permis de sortir ces gamins de prison.
Bruno Erail.
Alors, c'était pas la joie, mais au moins, ils n'étaient plus en prison. Et ça a été les premiers balbutiements de ce qu'on appelle l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui a construit après des foyers, voilà. Donc aujourd'hui, je resitue ce passage-là dans l'ensemble, comment une société gère la délinquance des mineurs.
C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit: j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, chapant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, t'as besoin de permis. Tous les braves gens s'y soumis. Qui est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et berberages. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Rejoindras-tu le continent?
Je travaillais assez longtemps avec mes enfants dans le domaine du loisir, et je m'occupais d'un centre qui s'appelait La Salvage, en dessus de Millau, où il y avait 150 gamins. Et les plus grands, ça faisait partie un peu d'une balade initiatique pour moi. C'est-à-dire, on prenait un car, 45 enfants, et on faisait toute la balade, la remontée à pied, où je racontais l'histoire. Et puis, on passait dans le tunnel. Et bon, donc il y avait beaucoup d'enfants, donc il y avait de l'ambiance, il y avait quelques animateurs qui criaient, qui leur faisaient un peu peur. Bon, c'est vrai que des fois, c'était... il y avait des petits moments où on leur faisait peur, mais quand même, ce qui était important, c'était raconter l'histoire, quoi. Parce que pour moi, c'est important que les enfants comprennent que le monde a évolué, mais surtout leur monde. Je rattache toujours ce bagne des enfants, ce qu'on peut voir actuellement, des enfants qui sont mis dans des colonies pénitentiaires en Russie, ou les enfants qui travaillent en Inde. Je trouve que c'est important que les enfants puissent visualiser qu'est-ce que ça peut représenter de travailler à 6 ans, quoi. Et parce que je crois que pour eux, c'est inimaginable.
Il y a eu une reconnaissance des bagnes pour enfants en général. Il y a eu une période, justement, où il y a eu plusieurs téléfilms qui ont été faits, qui sont passés à la télé. Il y a eu le bouquin de Madame Moinet, de Lacoste. Donc, il y a eu une effervescence là-dessus. Tout ça a été mis à jour, quoi.
André Pisio.
Suite à ça, il y a beaucoup de gens qui sont venus visiter ici, pique-niquer. Enfin, il y a eu beaucoup de visites ici, quoi. Et c'était retombé tout à fait maintenant, quoi. Il n'y a plus personne ne vient. On a intervenu auprès de la mairie pour essayer que les bâtiments soient rachetés. Alors, pas ici à la colonie pénitentiaire, mais plutôt l'aspect fromagerie. avec l'abîme Saint-Ferréol. Mais bon, ça ne les intéressait pas assez. Et c'est toujours le cas.
Mon mari, son luxe, c'était ses tripes.
Françoise Marquise du Luc.
Alors, en vendre une partie, c'était vraiment pour lui épouvantable. Hein.
Bon, peut-être qu'en 1900 ou en 1860, être directeur d'une colonie pénitentiaire, ça vous posait peut-être dans la région, surtout quand on est conseiller général ou président du conseil général, et puis juge impérial, procureur impérial. Mais bon, aujourd'hui...
Les bâtiments, mais bien entendu, on la marque de tout ça. Il y a un cimetière des colons. Malheureusement, il fait partie du locaux qui a été vendu.
Ils en souffrent, hein, parce que on sent que c'est quand même un poids hérité d'une colonie pénitentiaire, c'est quand même pas rien. On préférerait hériter d'une belle usine, d'une villa avec une piscine, je sais pas, mais une colonie pénitentiaire, vous vous rendez compte, c'est quand même dans votre héritage, c'est un truc, c'est incroyable ça, c'est à peine imaginable.
Il y a les prisons, mais les prisons c'est une partie de la ferme qui a été vendue, donc tout ça, je sais pas ce que c'est devenu, bah, il y a toujours les murs. Hein.
Et d'ailleurs, je vous dis, le dernier, celui qui a été maire de Campestre, il a beaucoup changé la nature des bâtiments, comme si il voulait un peu faire oublier ce que ça pouvait être. Mais la mémoire, elle est là. Hein. Les archives de Nîmes, vous y allez demain. Vous avez toujours ces 15 liasses qui vous attendent. Quelqu'un qui s'amuserait à vouloir en faire une étude un peu plus exhaustive pourrait. Donc il y a toujours moyen d'en parler. Mais en même temps, je pense que ça leur fait pas vraiment plaisir qu'on s'intéresse. Voilà. Parce qu'il y a souvent des gens qui viennent, mais avec un a priori, j'ai envie de dire, historique et politique. Et je pense qu'ils en ont un peu marre de prendre dans la figure que c'est des exploiteurs, les héritiers des gardiens de prison ou des directeurs de prison.
Parce que quand même, c'est un lourd passé, quoi. Ouais, il faut aussi faire attention aux familles, quoi. Moi, je veux dire, les descendants, comme les descendants des bannières, c'est difficile aussi pour les autres descendants parce que, voilà, d'accord, ils sont enrichis, mais eux, ils sont pour rien.
– 75 ans du travail des colons ont façonné le paysage du Luc. Aujourd'hui, tous les témoins directs ont disparu, et les bâtiments, isolés, morcelés, ne ressemblent plus vraiment à ce qu'ils ont été. Seules quelques parties restent entretenues. La métairie templière est en ruine. La nature reprend ses droits à la fromagerie de l'abîme Saint-Ferréol. Les dortoirs des enfants sont désormais murés. Le Luc est silencieux. Pourtant, l'histoire humaine résonne encore dans la cour désolée. À chacun de s'approprier ses voix pour imaginer une suite.
Mais je me suis dit, ça aurait peut-être intéressant de refaire ce que c'était que le Luc, la colonie pénitentiaire, dans ce souci de l'évolution de la gestion de la délinquance. Enfin, quelque chose, pas à dire c'était pourri, des salauds. Il n'y a rien de glorieux, mais il ne faut pas non plus tout saccager avec ça. Par contre, ça m'aurait intéressé qu'il y ait ce souci de maintenir quelque chose d'un peu vivace et qui permette de réfléchir aussi à ce qu'on met en place ou comment les vieux regardent les jeunes aujourd'hui, quoi. Parce que, voilà, en plus, le devoir de mémoire, comme on dit, me paraît fondamental sur ce chapitre-là, entre autres.
Mon projet, c'est tout simplement de restaurer. Pour conserver le bâtiment du 12e, le bâtiment templier, la mémoire, la mémoire des lieux. Vous vous intéressez à la mémoire des lieux. Eh bien, si on ne sauvegarde pas ce qui s'est passé dans les lieux au travers des bâtiments, moi je trouve que c'est un crime. Une fois restauré, bon, à mon avis, il faut que ça devienne un lieu public, soit culturel, d'exposition, de tout ce que vous voulez, culturel, artistique ou touristique. Refaire une colonie pénitentiaire, non. Hein? Mais faire une animation... Mais écoutez, on m'a proposé à un moment donné, la communauté des communes, une maison d'architectes. Bon, c'est tout à fait dans le même ordre. Ça ne serait pas la maison d'architecte, mais la maison des colonies pénitentiaires ou autre, mais qui retracerait l'implantation et l'évolution pendant un siècle des colonies pénitentiaires.
Moi, je crois que ce lieu, ben, serait bien, c'est qu'il y ait, que ça soit rangé et qu'il y ait au moins une petite explication sur le lieu, qu'on le fasse connaître. Comment ça peut se passer? Il faudrait que ça soit racheté par l'État. Le lieu soit racheté par l'État, et peut-être un travail, une réhabilitation des locaux et un peu une information là-dessus. Que les écoles puissent aller visiter, voilà, pourquoi pas. Je crois qu'il faut que les familles qui vivent dessus eh bien, puissent faire un travail là-dessus et soient partie prenante. Mais c'est pas. Je ne sais pas si c'est faisable, moi j'y crois pas trop. Je crois que ça restera marginal comme ça. Je ne crois pas que c'est faisable parce que le pays n'a pas envie.
Avec Bruno Irail, Geoffroy Lacote, Françoise Marquez-Duluc, André Piziot, Léa Pradel, Anne-Marie Rivemal, Lélio et Auriane. Texte extrait de L'enfance dans les fers de Lucien Bossy, édité par Librairie Critique en 1930. Avec les voix de Gérard Boucaron et Vivien Simon. La chasse à l'enfant de Jacques Prévert et Joseph Cosma est interprétée par Marianne Oswald. Merci à Emeline Régis, Guylaine et Armand Héral, Christiane et Jean-Paul de Népoux, les associations d'histoire et de généalogie de Millau et Camille Ferrat. La colonie pénitentiaire et agricole du Luc de Geoffroy Lacote est éditée par Arts et Traditions Rurales. Documentation musicale Antoine Vuloz. Coordination Irène Omelianenko, Inès De Bruyne, Alice Ramon. Bruitage et création sonore Patrick Martinache. Mixage Alain Joubert. Les Oubliés du COS, un documentaire de Anne-Lise Vieille-Dan et Annie Bosley. Réalisation Gilles Davidas.
Vous pouvez réécouter et podcaster Les Oubliés du COS par Anne-Lise Vieille-Dan et Anil Bosselet sur le site internet de France Culture. Demain soir à 23h, ce sera l'heure de l'atelier du son en compagnie de Thomas Baumgartner. En attendant, il sera bientôt minuit, vous écoutez France Culture et dans un instant, vous retrouverez Alain Weinstein du jour au lendemain.